Chapitre 16. Bobby sort par l'arrière du commissariat central de Boston et trouve Mary Pat Fennessy assise sur le capot de la caisse la plus moche qu'il ait jamais vue, juste après le parking. Bobby prend la ligne T pour aller au travail, et la sortie du parking mène à une ruelle qui fait une large boucle et se termine derrière la station de métro. Mary Pat et sa « voiture » sont garés juste à l'entrée de la ruelle et sont manifestement en train de l'attendre. Bobby s'arrête et allume une cigarette.
« Est-ce que cette chose est en règle ?»«
À 100%, » répond Mary Pat. Bobby fait le tour de la voiture. Elle donne l'impression que si jamais on souffle dessus, même doucement, elle va se désintégrer façon dessin animé. Il sourit en voyant le pot d'échappement. De la ficelle de cuisine n'est certainement pas un moyen réglementaire pour fixer un pot d'échappement. Et il s'étonne de l'absence totale de sculpture sur les pneus. Jamais derrière de bébé n'a été plus lisse que ça. Il se penche, regarde sous le châssis et ne voit pendre aucune partie du moteur ni garniture de frein. C'est déjà ça. Il retourne à l'avant près de Mary Pat.
« À 100%, hein ?»
Elle lui adresse un tout petit sourire. Peut-être 90.
Essayez plutôt 60.
En s'approchant, il constate que son visage donne l'impression qu'elle a été attaquée par des arbres vivants, comme dans un conte de fées. Ils l'ont cinglée avec leurs fines branches jusqu'à ce qu'elle ait atteint le bout de la forêt enchantée. Elle arbore un grand pansement couleur chair qui se confond presque avec la peau de son cou. Ses mains sont meurtries, ses phalanges gonflées. Elle porte un chemisier sans manches à carreaux blancs et jaunes, sur un jean retroussé dans le bas des jambes et des Converse basses en toile. Quand elle le regarde, ses yeux sont un peu trop brillants au goût de Bobby. C'est le genre d'éclat qu'il a déjà vu dans les yeux de personnes qu'on ne peut plus atteindre. Il contemple ses plaies, ses ecchymoses, ses pansements.
« Qu'est-ce qui vous est arrivé ?»
Elle hausse les épaules. « Vous auriez dû voir les autres filles. »
« Au pluriel ?»
Elle hoche la tête. « J'ai jamais pu respecter ces garces qui oublient que, quand on commence une bagarre, on a intérêt à savoir comment la terminer. » Il sent le sourire s'esquisser sur son visage une seconde avant de songer à le réprimer.
« Que puis-je faire pour vous, Madame Fennessy ?
Appelez-moi Mary Pat.
Que puis-je faire pour vous, Mary Pat ?
Je me demandais si vous étiez toujours à la recherche de ma fille.
Et comment ? Vous savez où elle se trouve par hasard ?
Quelque chose trouble l'éclat brillant des yeux de Mary Pat l'espace d'un instant. Une lueur d'incertitude et de douleur. Mais elle disparaît aussitôt et l'éclat brillant revient. Non, je sais pas.
Alors pourquoi êtes-vous ici ?
Cela pourrait m'aider à la retrouver si je savais... Si je savais vraiment pourquoi vous êtes à sa recherche. Il penche la tête en la regardant et attend la suite. Quoi ? Demande-t-elle.
Vous savez pourquoi je la recherche.
Parce que vous pensez qu'elle se trouvait sur le quai quand Oggy Williamson est mort.
C'est un peu plus que penser maintenant.
Très bien, dit-elle. Alors comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'arrestation ?
Parce qu'il y a des lois qui empêchent d'arrêter quelqu'un au hasard sans preuve formelle.
Mais vous pouvez les embarquer pour interrogatoire.
Qui dit que nous ne l'avons pas fait ?
Si vous l'aviez fait, vous auriez des preuves.
C'est comme ça que ça marche.
Il ricane en jetant sa cigarette dans la ruelle.
Votre premier mari n'était pas un certain Dukie Shefton ?
Elle incline la tête pour le regarder. Quelqu'un a fait ses devoirs ?
Et Dukie faisait partie du milieu. Je veux dire, cet homme était une légende parmi les voleurs.
Mary Pat sent monter en elle une petite bouffée d'un orgueil ancien au souvenir de son premier mari et de la réputation qu'il avait dans la rue. Effectivement.
Et c'était un indépendant, c'est bien cela, dit Bobby. Il n'était affilié à aucune bande.
Il était indépendant, sans aucun doute. Mary Pat allume sa cigarette.
« Mais, »
poursuit Bobby en martelant ses mots pour ponctuer sa phrase,
« il donnait tout de même un pourcentage de son butin à Marty Butler. »
Elle hausse les épaules. C'est comme ça que ça se passe à ça aussi.
C'est comme ça que ça se passe à ça aussi.
Nous sommes bien d'accord, là, Mary Pat. Donc, si j'embarque des gens pour interrogatoire, mais que je ne peux tirer de aucune preuve parce que je n'arrive même pas à leur parler 5 minutes avant qu'un avocat ne frappe à la porte, vous en pensez quoi ?
Elle l'observe un long moment, faisant rouler sa cigarette entre ses doigts.
Je pense que ces gens ont beaucoup moins peur de vous que de quelqu'un d'autre.
Eh oui.
Elle tire une bouffée songeuse, laisse s'échapper une série de ronds de fumée qui dérivent vers la ruelle avant de se dissiper l'un après l'autre. Alors vous êtes en train de me dire que ce crime restera non résolu ?
Bon Dieu, non,
répond-il. Personne ne va laisser tomber celui-là. Parce qu'un jeune noir est mort ?
Parce qu'un jeune noir est mort à la frontière entre Southie et Dorchester à la veille de la mise en application du busing. C'est le genre d'histoire que les journaux ont tendance à exploiter au maximum.
Pourtant, personne n'est en prison.
Parce qu'on n'a pas encore creusé de brèche dans la digue. Mais on va y parvenir. Et à ce moment-là, tous les dominos vont tomber.
Ou ce sont des corps qui vont tomber.
Excusez-moi.
Elle change de position sur le capot de la voiture, y met une jambe et saisit sa cheville. Vous savez aussi bien que moi que si tout ça conduit à Marty Butler, tous les jeunes qui étaient sur le quai ce soir-là sont aussi morts qu'Oggy Williamson.
Pourquoi avez-vous dit cela de cette façon ?
De quelle façon ?
Vous avez dit « tous les jeunes » comme s'il y en avait qui mourront de toute façon.
Si Marty Butler n'obtient pas ce qu'il veut en vous payant un avocat, dit-elle au bout d'un moment, il tranche dans le vif et paie votre enterrement.
Ce qui pourrait être la raison pour laquelle nous ne mettons pas trop de pression.
Mais si vous attendez trop longtemps, ils vont peaufiner leur version, Marty paiera des gens qui leur fourniront des alibis et vous n'obtiendrez aucun résultat.
C'est le risque, dit Bobby en posant un pied sur le pare-choc.
Vous pensez que ma fille est impliquée et je sais qu'elle ne l'est pas. Si nous parvenons à établir ce qui s'est passé, je pourrai prouver son innocence.
Et alors, peut-être qu'elle sortira de sa cachette.
Elle s'absente un instant, comme si elle quittait son corps. Pouf ! Et il reste là, à contempler une statue perchée sur le capot d'une voiture. Puis elle revient, mais sa voix est étouffée et faible. Ouais. Alors elle sortira de sa cachette.
Il examine son visage aussi attentivement qu'il le peut et demande « Mais elle est bien cachée quelque part, n'est-ce pas ?» Elle tire sur le lacet d'une de ses tennis.
Elle est cachée, c'est sûr.
Alors il va juste vous falloir patienter un peu, Madame Fennessy.
Mary Pat.
Il va vous falloir patienter, Mary Pat. Si je veux parvenir à prouver quelque chose, il faut que je fasse les choses convenablement.
En voyant son air, il devine qu'elle pense qu'il ne lui ment pas seulement à elle, il se ment aussi à lui-même.
Et si moi je leur parlais ? Dit-elle. À qui ?
Aux gens qui ne veulent pas parler.
Non, répond-il.
Pas une bonne idée.
Pourquoi ?
Il montre la main et le visage de Mary Pat.
Votre type de négociation s'appelle aveu sous la contrainte. Ça n'a aucune valeur devant un tribunal.
Seulement si, elle frappe l'air avec sa cigarette, un représentant de la loi en a eu connaissance au préalable.
Vous avez lu le code pénal ou quoi ?
J'étais mariée à Dukey. Il a réussi à échapper à la prison la plus grande partie de sa vie tout en volant. À un moment ou à un autre, tout ce qui pouvait avoir de la valeur et qui n'était pas rivé au sol dans cette ville. Il était le code pénal à lui tout seul.
« Qu'est-ce qui est arrivé à Dukey ?»
demande Bobby. Il ne s'est pas incliné.
« Devant qui ?»
La personne devant laquelle vous êtes censé vous incliner. Debout, là, en face d'elle, il a la sensation soudaine de sa grande solitude, de tout cet enchaînement de traumatismes grands et petits qui a constitué sa vie. Madame Fennessy, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Pour faire quoi? Tout ce que vous faites quand vous êtes chez vous. Et puis après, quoi? Vous vous levez le lendemain et vous recommencez. Elle secoue la tête. Ce n'est pas vivre, ça. Ça l'est si vous savez en découvrir les petits bonheurs. Elle sourit, mais ce qui brille dans ses yeux est une lueur de souffrance. Tous mes petits bonheurs ont disparu. En êtes-vous sûr? Oh, j'en suis sûr. Alors trouvez-en de nouveau. Elle secoue la tête. Il n'y en a plus à trouver. Bobby est frappé de constater que quelque chose d'irrémédiablement détruit et de totalement indestructible à la fois vit au plus profond de cette femme. Et ces deux caractéristiques ne peuvent pas coexister. Une personne détruite ne peut pas être indestructible. Une personne indestructible ne peut pas être détruite. Et pourtant, Mary Pat Fennessy est assise là, devant lui, détruite, mais indestructible. Ce paradoxe fiche une trouille pas possible à Bobby. Au cours de sa vie, il a déjà rencontré des gens dont il est convaincu qu'ils vivaient comme les anciens chamans, un pied dans chaque monde. Ce monde-ci est celui de l'au-delà. Quand vous rencontrez des gens comme ça, mieux vaut les fuir comme la peste. Sinon, ils peuvent très bien vous entraîner avec eux dans l'autre monde quand ils partent. Parce qu'ils sont sur le départ. Il ne faut pas s'y tromper. Prêts à tirer leur foutue révérence. Mary Pat, dit-il avec douceur. Elle lève les yeux vers lui. Est-ce que vous avez quelqu'un à qui parler?
Parler de quoi?
De ce que vous traversez en ce moment.
Je suis en train de vous parler?
Pas faux. Et je vous écoute, dit Bobby.
Mary Pat scrute son visage un instant. Mais vous n'entendez pas?
Qu'est-ce que je n'entends pas? Assise sur le capot de cette misérable voiture, les yeux encore bien trop brillants au goût de Bobby, elle fait tournoyer un doigt pointé vers le ciel et lui répond « Le silence !»
Bobby tente de formuler une réponse. Rien ne lui vient à l'esprit. Mary Pat descend du capot, s'avance jusqu'à la portière de son épave et s'installe au volant. Elle fait marche arrière, repart en avant et s'en va sans même paraître le voir. «